9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est ravi d'accueillir Elisabeth Quin.
Bonjour Elisabeth Quin.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous présentez 28 minutes sur Arte, une émission qui fête cette semaine ses 8 ans. Vous avez démarré en janvier 2012. C'est du lundi au vendredi, pour qu'il ne le saurait pas, à 20h05. Et le samedi, dans une version présentée par Renaud Dely. Les audiences ne cessent de monter. C'est assez rare pour être signalé, assez joyeux. Des pics à 1 million. Pour les 65 millions qui ne vous ont pas vu hier, 28 minutes, c'est un invité du monde culturel ou de la culture et un débat d'actu chaque année, chaque saison. Les émissions reviennent avec des nouveautés. Vous, c'est très simple, aucune nouveauté cette saison.
Juste à la marge.
Voilà.
Pourquoi voulez-vous qu'on introduise des nouveautés?
J'allais vous
tous
demander
les autres,
ça.
Ailleurs, introduisent eux-mêmes leurs nouveautés, c'est-à-dire un tout petit peu plus peut-être de médiocrité ou de. Voilà.
Vous savez très bien l'adage qui est peut-être imbécile des gens de la télévision. Si on ne change pas, on meurt. À la manière. Et l'exemple qu'on
comme
donne toujours,
requins.
C'est comme, le vélo.
Comme le vélo.
Si on ne pédale pas, on tombe. Non. Pas
bah, écoutez, nous, nos modifications. Alors, dans Renaud Dely, bien sûr, c'est depuis 2018, le samedi. Ce sera vraisemblablement aussi à partir de cet été, tous les samedis. Donc voilà la modification de l'année.
D'accord, l'audience est en hausse en 2019 par rapport à 2018.
Oui.
L'audience du magazine a continué de progresser au quatrième trimestre 2019. Jamais vous avez fait aussi bien. 3,2% de part d'audience et la moyenne, 728 000 téléspectateurs. Record historique, c'est ça qui me frappe vraiment dans cette émission. C'était le 23 novembre 2018, le thème c'était sur les sentinelles après les attentats. Donc c'est pas le sujet le plus joyeux que la Terre ait porté.
Non, mais vous savez bien qu'on peut tous les soirs proposer des débats avec une vraie pluralité d'opinions qui ne sont pas indexés à des sujets joyeux.
Oui.
Les sujets joyeux, il n'y en a pas. Par contre, il y a un ton qui est le ton de l'émission et qui est un ton enjoué, spirituel. Voilà, je veux dire, le sérieux ou voire le tragique de ce que nous vivons et de ce que nous allons tous vivre collectivement de plus en plus n'empêche pas d'être spirituel et enjoué. Au contraire, humour, politesse du désespoir, enfin vous connaissez ça.
Vous n'avez pas à me convaincre, je suis convaincu.
Vous êtes convaincu d'avance.
Deuxième meilleure audience historique, c'était le 9 décembre dernier. Le thème, c'était les algorithmes. Voilà, on va faire du monde avec ça. Et le deuxième, là c'est différent, il y a un kilomètre sentimental. Les élections présidentielles en Algérie, mais quand même 925 000 personne devant l'émission, on est ravis pour vous.
Et hier soir, l'émission a eu un très 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 joli succès.
Ah bon,
et
c'est quoi les scores?
3,2, je ne sais pas comment on dit.
Ouais, 3,2
points de
part de marché ou part d'audience.
PDM, et nous recevions un immense artiste. Et je vous le dis, parce
Christian
que vous avez, votre émission, c'est une émission consacrée à la culture aussi.
Exactement.
Christian Boltanski, qui expose une œuvre exposition, une sorte d'œuvre immersive au Centre Pompidou en ce moment, et qui est un type absolument incroyable.
Alors, Boltanski,
obsédé par la mort et par la vie.
Et par sa propre mort et sa propre vie, puisqu'il a vendu sa propre vie, ce qu'il racontait hier chez vous. Il n'est pas connu du grand public, mais il est très connu, évidemment, dans le milieu de l'art contemporain. Et alors, vraiment, vous avez su l'accueillir avec les mots qu'il faut.
Bonsoir Christian Boltanski, quel bonheur de vous voir si élégant dans votre costume de croque-mort japonais. On est heureux de vous accueillir dans 28 minutes à l'occasion de cette, surtout pas rétrospective, cette déambulation immersive au Centre Pompidou que vous avez conçu et qui s'appelle « Faire son temps ». Pourquoi vous n'aimez pas le mot de rétrospective?
Parce qu'en fait il s'agit d'une seule œuvre.
Ouais.
Je dis souvent comme ça que une exposition telle que j'ai pu la faire. C'est
oui,
un
oui
peu
non, je ne voulais pas l'interview, je voulais juste la présentation.
Vous voulez dire, le croque-mort.
Oui,
le
costume de croque-mort japonais. Je n'ai pas écouté l'Express ce matin, il durait une heure.
Le vêtement de fossoyeur.
Mais ouais, la tête qu'il a faite quand vous lui avez dit ça.
Mais non, il a jubilé parce qu'il a l'air d'un Bouddha joyeux, exultant. Et effectivement, il est toujours vêtu en noir et comme ça, une espèce d'allure de fossoyeur. Donc j'aime cet être qui est une sorte d'incarnation de tous les paradoxes qui nous intéressent.
Voilà. Hier, il y avait un débat de très haute tenue sur le terrorisme. À l'occasion des 50 ans de la tuerie de Charlie Hebdo, il y avait trois spécialistes. 5 ans, pardon, excusez-moi, j'ai écrit 5 ans, je ne sais pas pourquoi. Trois spécialistes, il y avait Gilles Kepel, l'avocat Thibault de Montbrial et la spécialiste police-justice, journal Le Monde.
Je m'excuse.
Exactement, prix Albert Londres 2018. Quelle différence avec une émission comme C'est dans l'air sur France 5
ou
Yves Calvi sur Canal Plus?
Mais j'en sais rien, je ne regarde pas la télé. Arrêtez de me demander ça depuis 8 ans, Philippe Vandel.
Non, je ne vous le demande pas.
Mais si, vous me demandez toujours quelle différence.
Pour dire les choses.
Et je vous réponds, je ne sais pas.
Alors,
vous imaginez bien qu'on ne va pas s'amuser tous les matins. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens que vous me citez, de France 5 et d'autres chaînes, Anne-Elisabeth Lemoine, Calvi, etc. Mais je ne regarde pas la télé, je n'ai pas la télévision. J'ai un petit écran dans ma cuisine, grand comme un timbre-poste d'antan, comme on disait. Bon, donc nous invitons les gens les plus habilités à analyser, à essayer de nous aider à rendre rendre lisibles les sujets de société qui nous angoissent tous ou qui nous interpellent tous. Je ne sais pas, on ne compare pas, on ne fait pas des plateaux en fonction de l'assiette du voisin.
Vous êtes en prise avec l'actualité, mais vous l'avez dit, des gens qui analysent, par exemple au moment des grèves des cheminots, chez ouais. vous, il n'y a pas de cheminots grévistes. Au moment non. des gilets jaunes, chez vous, il n'y a pas de gilets jaunes. Oui, ça, c'est un vrai. Choix. C'est un choix éditorial.
Oui, c'est un choix éditorial. C'est le choix de prendre un tout petit peu de recul et de s'autoriser à faire intervenir des sociologues, des historiens des révoltes, des historiens des manifestations, des spécialistes de la problématique territoriale française, enfin des gens, des économistes évidemment, à foison, et pas être dans le à chaud et le brûlant. Les chaînes info le font très bien, ou très mal, ça dépend du point de vue qu'on porte sur ce qu'elles font. Mais en tout cas, c'est ce qu'elles font, c'est leur métier. Ça n'est pas le même métier.
Et ce choix de n'avoir que des sachants, comme on dit, c'est un mot qui est arrivé et qui fait irruption au moment des gilets jaunes. Les sachants, ça veut dire des gens qui savent. Ça veut dire, pour dire les choses clairement, oui. des bacs plus 4, des bacs plus 6. Oui. Et jamais des gens sur oui. le terrain. Et il y avait certains sociologues qui disaient, dans les émissions de télé, vous n'étiez pas cités, parfois vous étiez cités, mais on n'a que des gens qui parlent de nous, disaient les gens sur les ronds-points, mais pas nous.
Oui, c'est vrai. Ils ont raison. C'est une analyse systémique qu'ils faisaient et qui rencontrait leurs préoccupations ou leur hantise de se sentir coupé des élites, comme ils disent, et de se sentir méprisé par ces élites-là. Mais c'est aussi intéressant, si on va un peu plus loin, d'analyser ce sentiment. Et si on l'analyse, ça peut être avec des sociologues. Mais vous savez, les sociologues, ils ne sont pas enfermés dans un bureau au Collège de France ou dans une fac, les sociologues. Quand ce sont des bons sociologues, c'est eux qu'on invite. Ce sont des gens qui vont sur le terrain. Et si on reparle d'Élise Vincent, qu'on a invité hier pour parler du djihadisme et de comment fait-on avec un nouveau djihadisme qui a muté, c'était le thème d'hier soir. Élise Vincent, qui a eu le prix Albert Londres, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle a été maintes et maintes fois sur le terrain, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc les sachants ne sont pas toujours coupés. Ça serait trop facile, cette dualité entre les gens qui savent, qui sont coupés des réalités, et les gens qui sont sur le terrain. Mais les gens qui sont sur le terrain, ce sont des sachants aussi. Les gilets jaunes connaissent mieux que personne leur expérience, donc ils sont des sachants de leur propre vie, à leur façon. C'est pas aussi simple. Je déteste la dualité binaire comme ça.
Pareillement. Vous restez avec nous. Vous restez avec nous, Elisabeth Quin.
28 minutes, l'émission d'Arte fête ses 8 ans et on continue à en parler dans un instant avec sa présentatrice Elisabeth Quin, qui est notre invitée sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
28 minutes, c'est sur Arte du lundi au vendredi à 20h05. L'émission fête ses 8 ans. Et on en parle avec sa présentatrice Elisabeth Quin, qui est notre invitée ce matin dans Culture Média, Philippe.
Alors, Elisabeth Quin, on l'a bien compris, vous n'aimez pas parler de chiffres, sauf dans un cas, 1 million. C'est pas votre audience, 1 million de personnes
bientôt,
en France, c'est le nombre de victimes d'une maladie dont on ne parle quasiment jamais, maladie pour laquelle nous avons baissé la lumière dans ce studio, c'est le glaucome. Première cause de cécité, je l'ai appris en préparant cet entretien dans les pays développés, maladie dont vous êtes victime et dont vous avez voulu parler dans un livre, La nuit se lève. Pourquoi ce récit, vous qui êtes habituellement si discrète sur votre vie privée et vie personnelle?
C'est vrai, surtout en étant sous l'éclairage quotidien à la télévision où l'on se cache, vous le savez bien.
Oui.
Tout simplement à cause du chiffre que vous venez d'évoquer. Entre 500 000 et 1 million de Français sont concernés par un glaucome, qu'il soit simple ou double, autrement dit qu'il concerne un œil ou les deux yeux. Le glaucome, c'est une atteinte du nerf optique qui peut devenir irréversible si c'est dépisté trop tard, si c'est mal soigné ou si la personne refuse de se soigner, ce qui arrive. Il y a des gens qui ne veulent pas se soigner tellement la hantise et tellement le rapport à l'œil chez eux est fantasmatique et insoutenable.
Et je vous pose la question.
Moi, j'ai cette maladie, j'ai voulu témoigner de ce que ça représente d'entendre un diagnostic qui, au premier chef, vous effondre et puis ensuite qui vous force à réagir.
Je vous posais la question que tout le monde se pose en entendant votre phrase précédente. Comment vont vos yeux?
L'œil droit, fort bien. Il peut vous faire des clins d'œil. L'œil gauche est un tout petit peu moins stabilisé. C'est une petite source d'inquiétude, mais nous gardons à l'œil cet œil.
400 000 à 500 000 personnes ignorent en France qu'elles sont atteintes de cette maladie, mais il n'y a pas de traitement qui fasse reculer la maladie.
Non, le traitement, les traitements des collyres, de la chirurgie, des lasers, il y a toute une variété de traitements possibles. Essayent d'arrêter, en général réussissent à empêcher l'évolution de la maladie, mais on ne peut pas revenir en arrière. C'est vertigineux, c'est-à-dire que ce que vous avez perdu en vision, en champ visuel, en acuité visuelle, vous ne le récupérerez jamais.
Voilà. Mais c'était une surprise pour vous?
Pour moi,
parce que c'est héréditaire, et votre papa en souffre.
Oui, mais je ne le savais pas parce que mon père n'avait plus sa tête, ma mère plus tout à fait non plus, et donc j'ai découvert après la mort de mon père qu'il avait cette maladie et que donc il me l'avait transmise. Le problème n'est pas de se demander pourquoi je ne l'ai pas su plus tôt. Une fois qu'on vous a diagnostiqué une maladie, il faut développer en soi quelque chose qui est très compliqué, qui est à la fois de la combativité et en même temps de la souplesse. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre la maladie, mais lutter contre une maladie, ça mobilise tellement vos forces que ça vous met dans un état de nerf. Or, la pression nerveuse, c'est très mauvais. Donc il faut trouver en soi une espèce de double mouvement, quasi contradictoire, tonicité, combativité, et en même temps, laisser aller, accepter, souplesse spirituelle, vous voyez ce que je veux dire. C'est un exercice super compliqué, mais donc je m'y astreins.
Et quand vous parlez de pression, c'est au sens littéral, parce que c'est la pression sur le globe
c'est
oculaire.
C'est la pression sur le nerf optique.
C'est pas façon de parler.
Et la pression sur le nerf optique détruit ce nerf optique. Voilà. C'est ça la maladie.
Quelles ont été les réactions à la publication de ce livre? Vous avez reçu des courriers, j'imagine.
J'ai reçu des courriers absolument bouleversants, déchirants ou hilarants de gens qui, d'abord, beaucoup de gens qui m'ont écrit ou qui venaient me voir quand je signais le petit livre dans les librairies en province ou à Paris, des gens qui me disaient, écoutez, je m'y retrouve, donc merci, parce que je me sens moins seule. Merci d'en parler, merci de faire en sorte que le mot glaucome soit prononcé, que les gens se rendent compte qu'il faut aller se faire dépister, qu'il faut aller chez un ophtalmo, qu'il faut se faire prendre la pression, que c'est pas juste chez l'opticien, le monsieur qui vend des lunettes, c'est chez l'ophtalmo. Et puis j'ai reçu des gens qui m'ont proposé des marabouts, des guérisseurs.
Pardon,
des gens qui... Non, mais des gens extraordinaires qui me disaient, écoutez, moi je suis guérisseur, je vais vous guérir, mais en échange, je vous demande un truc, écrivez ma vie, parce que ma vie est passionnante. Donc nous faisons un pacte. Non mais je recevais des trucs, je recevais des mouchoirs trempés dans des sources miraculeuses avec un petit mot PS. Il y a eu des nitrites et des sulfites dans la source, donc elle est polluée, mais mettez-la vous quand même, mettez-vous quand même le mouchoir sur les yeux, ça va vous guérir. Non, des trucs fabuleux, donc il y a eu une communauté.
Et même dans le livre, vous manquez pas d'humour, Elisabeth Quint, vous relevez l'ironie qu'on trouve dans les expressions banales de la vie, comme quand on dit, tu vois ce que je veux dire, ça crève les yeux, et là je suis embêté.
Mais vous savez qui me disait ça?
Dites-moi.
Une aveugle. Une psychothérapeute
non, mais sauf que moi...
et qui riait en me disant le langage est voyant.
Mais oui, mais comment je vais faire maintenant pour vous dire au revoir? Mais je vous
bien
dis salut.
Vu,
merci.
Bien
merci Elisabeth Quint. Je rappelle, 28 minutes, faut-il le rappeler, c'est sur Arte, tous les soirs du lundi au vendredi
vous
à 20h05.
Vous savez qui y a ce soir? Eve Ensler, les monologues du vagin, ça vous dit quelque chose?
Oui.
Vagina, elle est là, chez nous, sur Arte ce soir.